Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin, Guillaume Offrette, il est président de Renaissance 56 et il a dû affronter quelques déviations avant de nous rejoindre, d'où ce petit retard, il est pardonné. Merci infiniment d'être avec nous ce matin, bonjour.
Bonjour.
On va parler d'Europe ce matin, on va parler en entrée en matière, voilà, je vais y arriver, c'est vendredi, comme entrée en matière du discours du président de la République Emmanuel Macron à la Sorbonne hier. On a parlé d'un discours à la fois fondateur et anxiogène. Anxiogène parce qu'il y a cette peur de disparition de l'Europe, le président a eu des mots forts, et également fondateur parce que le président a balayé en un peu plus d'une heure trois quarts tous les grands sujet de l'Europe et une Europe qui deviendrait forte.
Tout à fait. Alors, j'étais présent lors de ce discours hier à la Sorbonne. Je crois que c'est important de rappeler aussi la scénographie de ce lieu qui a été choisi, l'amphithéâtre de la Sorbonne, qui est ceinturé de statues avec une très belle fresque qui, du coup, cette scénographie qui démontre l'intérêt que porte le président pour ce sujet européen. Vous le dites, c'est en effet, il a choisi de placer les enjeux, cet aspect un peu anxiogène, mais je trouve que c'est très important de, en effet, rappeler que ce sujet européen qui nous paraît peut-être très évident aujourd'hui est, peut mourir, peut disparaître demain. Et il a apporté des pistes pour réformer, pour continuer, pour apporter une vision à l'Europe. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce discours que j'ai trouvé une vraie bouffée d'oxygène. Alors, certes, il y avait ces aspects anxiogènes de départ, mais c'était très positif parce que ça nous transportait vers l'avant, vers l'avenir. Et fondamentalement, ça nous remettait, je trouve, d'aplomb pour affronter l'avenir.
Il y avait besoin d'un petit coup de boost, si vous me permettez le terme en bon français, car on sait que la campagne de Valérie Ayer patine un petit peu, elle a du mal à avancer, en tout cas si on en croit les sondages, qui restent que des sondages évidemment. Il y avait besoin de ce petit coup de fouet présidentiel, si j'ose dire.
Alors déjà, ce n'était pas un discours de campagne, c'était vraiment un discours de président de la République. C'est-à-dire que la vision qu'il a portée, c'était une vision pour l'Europe, en chef d'État, pour les autres chefs d'État. Certes, et je l'espère, la campagne de Valérie Ayer pourra reprendre les pistes portées par le président, mais je pense que le premier public était évidemment nous, les Français, mais c'est aussi les autres Européens. Et quant à la campagne de Valérie Ayer qui patine, j'ai pas du tout le même ressenti. Alors, je vois les sondages comme vous, c'est évident. Nous souhaiterions évidemment être plus haut. Après, ça reste la candidate qui est la deuxième dans les sondages et de loin. Et c'est vrai que moi, ce qui m'inquiète plus dans ces sondages, c'est pas tant le score de Valérie Ayer que le score de l'extrême droite, qui est très élevé et qui doit tous nous inquiéter. C'est ça la vraie leçon de ces sondages. Et quand on regarde les scores des autres, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce que on se gargarise du score du candidat socialiste qui a quelques dizaines de pourcents, mais c'est extrêmement faible pour l'historique du Parti Socialiste. Donc pour un parti qui est finalement assez récent, être autour de 20%, ça me paraît bien, mais évidemment on peut faire beaucoup mieux et ça va être tout l'objet de cette campagne.
Alors justement, cette inquiétude autour du Rassemblement National qui est fort dans les sondages, le Rassemblement National d'ailleurs qui a une vision d'Europe évidemment assez différente de celle de la majorité présidentielle et de Valérie Ayer évidemment, l'inquiétude c'est d'une Europe différente, une Europe qui serait pas forcément une Europe ouverte. Vous avez cette inquiétude-là ?
Alors, moi, c'est pas une Europe différente, c'est pas d'Europe du tout. C'est ça le Front National. C'est derrière, et le président l'a très bien dit hier, c'est qu'il y a ceux qui vous disent l'Europe, oui, mais. Mais quand en réalité, derrière, vous avez. Mais quel est leur projet ? Ils défendaient la sortie de l'euro il n'y a pas si longtemps que ça. Ils défendaient le Brexit il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un Front National qui prend les bons côtés de l'Europe et se dit ah, mais on va pouvoir ne pas respecter les traités, ne pas respecter nos engagements avec nos voisins, et tout va bien se passer et vous pourrez garder tous les bons aspects de l'Europe. Mais c'est pas une Europe à la carte, ça n'existe pas. Et il va bien falloir que en fait, ce rapport à la réalité, qui est complètement délirant du côté du Front National, je suis très inquiet parce que ces discours simplistes portent malheureusement beaucoup trop parmi la population.
On le voit, il y a de fortes intentions de vote, et puis il y a aussi une forme de défiance vis-à-vis de l'Europe. On en a parlé avec plusieurs invités ici, une forme de défiance, c'est-à-dire souvent les Français comprennent pas bien l'Europe ou la montrent du doigt en disant c'est la faute à l'Europe, c'est un grand classique. Est-ce qu'il y aura un travail à terme à faire, un travail de fond pour expliquer l'Europe, pour peut-être la rendre un peu plus humaine, si vous me permettez le terme?
Alors, je pense que le travail de pédagogie, il est évidemment très important. Après, je crois que c'est l'Europe du quotidien. C'est se rendre compte qu'elle nous sert aujourd'hui à tous. C'est très important pour les citoyens. On en est encore loin, c'est sûr. Mais quand on... Et peut-être qu'on n'en est pas toujours conscient. Et ça, c'est vrai que c'est problématique. Quand on voit qu'on a pu avoir les vaccins contre le coronavirus grâce à la politique d'achat au niveau européen, et que si nous avions juste acheté en français, en pays... somme toute, assez petit quand on regarde par rapport à l'ensemble des pays du monde, nous n'aurions peut-être pas réussi à avoir les vaccins aussi rapidement.
On va parler justement de la place de l'Europe dans la géopolitique mondiale qui est en grand bouleversement aujourd'hui. Mais on a cette inquiétude aussi de voir la France disparaître ou en tout cas être, j'allais dire, relégué à la portion congrue face à une Europe toute puissante, une forme de perte d'identité. On a beaucoup entendu le président sur l'Europe souveraine. On entend évidemment, j'allais dire, le camp d'en face ou les camps d'en face parler de France souveraine. Est-ce qu'on aura une perte d'identité à terme?
Mais attendez, vous dites que l'Europe est en train de se, que la France est en train de se diluer dans l'Europe. Mais est-ce que la France n'est pas en train de se diluer face à la Chine, aux États-Unis, à l'Inde, qui sont des très grandes puissances, et face auxquelles, si nous sommes seuls, mais nous sommes tout petits. Et donc en fait, à travers l'Europe, nous sommes en train de sauver la France, de nous projeter, d'être en capacité, en lien avec nos voisins, avec nos alliés, avec nos amis, de pouvoir peser sur notre vision commune. Parce que nous avons des choses, des valeurs que nous partageons et qui ne sont pas partagées par les États-Unis, qui ne sont pas partagées par la Chine, que ce soit les droits de l'homme, que ce soit la vision de la démocratie, que ce soit nos systèmes sociaux. Et d'imaginer un seul instant que nous puissions peser souverainement, seuls, dans ce monde. Mais voyez le Royaume-Uni, est-ce que c'est vraiment ce modèle à suivre, cette stagnation économique, ces questionnements d'identité? Moi, je ne crois absolument pas à ça.
L'Europe peut disparaître, disait le président de la République, mais l'Europe peut aussi se souder et devenir, j'allais dire, un continent assez fort face, justement, vous y faisiez référence à la Chine, face à la Russie aussi, aujourd'hui en guerre en Ukraine, face aux États-Unis avec une certaine incertitude et des élections à mi-mandat qui arrivent en novembre et le retour peut-être de Donald Trump qui remettrait sans doute en cause la sécurité, en tout cas la défense européenne. Tous ces bouleversements-là aujourd'hui, l'Europe doit les affronter. Est-elle prête? Est-elle prête ou est-ce qu'il y a encore un grand chemin à faire?
Évidemment que le chemin est encore très important, mais tout est dans votre question. Non, le chemin est évidemment très long et on le voit bien avec la guerre en Ukraine qui a lieu aujourd'hui, sur lequel l'Europe, à mon sens, a été au rendez-vous, mais très clairement, pas suffisamment.
Peut mieux faire.
Et peut mieux faire, et c'est évident. Après, ce peut mieux faire, on voit où est-ce que nous voulons aller, mais il faut y aller ensemble, à 27, peut-être un peu plus tard. Et aller à 27, forcément, ça prend du temps. Cette Union européenne que nous sommes en train de fonder, c'est un objet politique unique qui n'a jamais été fait dans l'histoire. D'être en capacité de se mettre ensemble à l'échelle d'un continent pour essayer de construire un projet politique commun, c'est quelque chose de totalement neuf. Et nous avons créé cet espace de paix, de prospérité, globalement. Et en effet, aujourd'hui, il faut bâtir, aller un cran plus loin, ce cran de souveraineté et de puissance. Et pour ça, nous avons encore, en effet, du chemin à parcourir.
Le président de la République l'a dit, demain, il y aura les enjeux de défense. On parle beaucoup, depuis des années, de cette défense européenne, même de cette armée européenne. C'est un peu le serpent de mer, il faut le dire. Et là, depuis la guerre en Ukraine, on a l'impression d'un sursaut de pays. On pense à l'Allemagne, qui n'était pas spécialement des pays qui s'impliquaient dans les conflits, ou en tout cas qui avaient envie de s'impliquer dans des conflits. Est-ce que l'Europe a acquis une certaine maturité en la matière?
Alors, vous parliez de chemin à parcourir tout à l'heure sur la défense. C'est évident que le chemin est assez long. Maintenant, et dans le discours d'hier, Emmanuel Macron a posé des jalons, des premières étapes, parce que l'armée européenne, nous n'y arriverons pas demain. Par contre, aujourd'hui, on peut d'ores et déjà commencer à travailler sur une culture militaire commune, sur une industrie de défense commune. La proposition d'Emmanuel Macron de dire qu'il faut une préférence militaire européenne lorsqu'on achète du matériel militaire, ça me paraît excellent et une base fondamentale. Deuxièmement, d'avoir une force d'intervention rapide comme ce qui a été proposé, c'est là aussi un élément fort qui permet d'agir en européen lorsque nous en aurons besoin. Et ces étapes, on en est encore assez loin, mais elles sont déjà les premiers jalons vers ce que vous indiquez, qui sont garants de la sécurité de notre continent à venir. Et on voit que cette sécurité est en danger quand on voit ce que fait la Russie.
Sur le discours d'Emmanuel Macron, on parlait du Rassemblement National tout à l'heure, ses réactions, on a aussi la réaction de Manon Aubry, de LFI, qui dit, voilà, le président de la République est entré en campagne. Est-ce que Emmanuel Macron a des visées? Alors là, je vais vous taquiner un petit peu, des visées européennes. On parle beaucoup d'un président européen un jour. Est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron pourrait incarner ce président européen?
Alors, Emmanuel Macron est intervenu en président français pour les Européens, et c'est sa vision à lui, toute sa légitimité. Et je trouve ça très heureux que le président français, qui est une des puissances majeures au sein du continent et de l'Union, ait une vision pour le continent, qu'il apporte et qu'il partage, et qui du coup va être sujette à débat. Pour la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fera après 2027, puisqu'il ne peut pas se représenter, et j'entends tout à fait votre question, il est jeune, c'est évident, et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux. En tout cas, il se met aussi en danger, d'une certaine façon, en proposant sa vision. Parce que, très clairement, et vous l'imaginez bien, tous les autres pays européens ne sont pas d'accord avec l'ensemble de sa vision. Et donc, en se mettant dans le débat, il se met aussi en danger. Mais je trouve ça très intéressant. Il prend son risque, d'une certaine façon. Et peut-être que ce risque-là, les autres Européens lui seront grés d'avoir porté cette vision. Peut-être pas. Je ne sais pas. Ce sera en tout cas une décision collégiale. Et je ne sais pas ce qui se passera en 2027. Évidemment que s'il représente la France au sein des institutions européennes, il faudra qu'il soit en phase avec ce qu'il se passera à Paris. Et ça, forcément, c'est un débat pour nous et un débat qu'il conviendra d'avoir en 2026 et 2027.
Voilà, le temps nous laissera le temps, si j'ose dire. Sur la chose européenne, il y a également, vous parliez tout à l'heure de ces pays qui ne parlent pas forcément d'une même voix. Il y a des disparités au sein de l'Europe, il y a des disparités aussi territoriales. On parle beaucoup de l'Europe fédérale. Le grand débat, Europe des nations, Europe fédérale, quelle serait selon vous la meilleure vision pour l'Europe de demain, pour l'Union européenne de demain?
Ah non, mais l'Europe fédérale, c'est une vision que je trouve intéressante à titre personnel, mais c'est une vision de laquelle nous sommes aujourd'hui très loin. Il y a des libertés, la liberté de déplacement des personnes, la liberté de déplacement des capitaux, la liberté de faire son entreprise, des services, des biens. Et donc, toutes ces libertés-là qui sont à la base de notre Union sont fondamentaux. Notre Union se renforce globalement. Quand on voit notre capacité là sur le dernier mandat, puisqu'on va y avoir les élections européennes en juin, avec la mise en place d'un pacte vert, c'est-à-dire une vraie vision de préservation de la nature et de lutte contre le réchauffement climatique, c'est pas du tout partagé dans le reste du monde. Il y a des vraies choses qu'on porte en commun. Est-ce que ces vraies choses nous portent vers une Europe fédérale? Je ne sais pas aujourd'hui. Mais très clairement, si on n'a pas de vision, il ne va rien se passer, on va faire du surplace et surtout l'Europe ne fait pas rêver. Et donc il faut apporter du projet, parce que ces projets c'est ça qui va porter les gens. Enfin, je veux dire, on n'a pas envie de s'investir dans une Europe où c'est juste de la bureaucratie.
Ce qu'on lui reproche d'ailleurs, d'être très technocrate, très technicienne, cette Europe peut-être pas assez humaine justement. Ça nous ramène au début du propos.
Oui, technicienne, humaine, mais forcément, enfin, je veux dire, quand on fait des lois à Bruxelles, c'est difficile lorsqu'on est ici au Quessois ou de mon côté, là où je suis à Vannes, de se rendre compte de tout ce qui peut être fait et de tout. Et même ça nous paraît très loin de se dire que mais il faut faire attention aux conséquences que ça pourrait avoir en Estonie. Bah oui, parce que les Estoniens, ça paraît très loin et on n'en a peut-être jamais vu de sa vie. Mais en attendant, c'est notre union et c'est toute la beauté de notre union. Et à vrai dire, on se pose moins de questions quand c'est quelqu'un qui vient de la Creuse et qu'on n'en a peut-être jamais rencontré non plus.
Voilà, les Creusois apprécieront. On parle aussi de cet élargissement de l'Union européenne. Là encore, les mentalités avancent, mais il y a des réticences, on l'entend, vis-à-vis de l'Ukraine. On a les agriculteurs qui sont très inquiets de cette entrée possible de l'Ukraine, même si là aussi, on imagine qu'il faudra du temps. On parle aussi de la Moldavie. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe attire aussi ces pays, ces anciens pays satellites de l'ex-URSS pour trouver quelque chose d'autre, ce qu'ils n'ont pas trouvé finalement à l'Est et qu'ils souhaitent trouver à l'Ouest, c'est-à-dire là aussi une plus grande liberté, une plus grande faculté de commercer, d'être protégé aussi.
Mais tout à fait. C'est vrai que quand nous on se plaint de l'Europe ici à l'Ouest, on se dit « Ah mais c'est trop bureaucratique, vous l'avez dit, pas assez humaine », c'est finalement assez drôle de voir qu'à l'Est, au contraire, c'est un modèle que les gens sont prêts à descendre dans la rue, en Géorgie par exemple, avec des drapeaux européens, pour dire toute leur volonté de rejoindre cet espace de liberté, c'est le mot que vous avez employé, mais je le trouve très, très pertinent, et cet espace de prospérité, de promesse de croissance, de promesse d'un avenir meilleur. Mmh. Et c'est parce que peut-être qu'il y a des choses que nous prenons pour des évidences que eux ne voient pas comme des évidences. Après, pour compléter peut-être le propos que vous donnez, en effet, nous en sommes très loin aujourd'hui parce que pour intégrer l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle un acquis communautaire, c'est-à-dire toute une série de lois, de droits qui doivent être maintenus. Et aujourd'hui, en Ukraine, qui est pareil, évidemment, parce que c'est un État en guerre, mmh. mais aussi en Moldavie, parce que c'est un État qui est grignoté,
menacé
par la Russie, avec des tentations séparatistes, soutenues par des militaires russes, c'est très compliqué de l'imaginer. Mais leur dire « nous sommes prêts à vous accueillir le moment venu », c'est quelque chose qui est très intéressant. Et ce moment venu, dernière chose, ne pourra venir que si nous réformons notre manière de prendre des décisions ensemble à 27. Parce que déjà à 27, vous le savez, nous le savons, c'est compliqué. Alors à 29, qui plus est avec un très grand pays comme l'Ukraine, ce sera d'autant plus compliqué. Donc il y a des réformes à mener avant d'envisager toute extension, élargissement de l'Union européenne.
L'Union européenne, c'est aussi, alors on parlait du commerce, c'est aussi la géopolitique. On parlait tout à l'heure de la Chine, des États-Unis avec cette incertitude de l'élection du mois de novembre. C'est aussi l'autre côté de la Méditerranée où arrivent, d'où viennent beaucoup de migrants qui souhaitent là aussi trouver une vie meilleure sur le continent européen, avec tout un débat très, très difficile ici en France, mais un peu plus largement en Europe. On a vu ce pacte immigration qui a été voté par les parlementaires européens, qui ne fait pas l'unanimité. On a entendu des voix s'élever contre ce pacte. Certains le trouvent trop coercitif, d'autres pas assez. Est-ce que l'Europe va devoir préparer dans les années, voire les dizaines d'années à venir, l'accueil de ces gens qui viennent d'autres pays, pays en guerre parfois, pour chercher aussi peut-être un mieux-être économique, un mieux-être de vie, mais aussi, et on en parle un peu moins, mais ça viendra, les migrants climatiques, car certains pays vont devenir assez vite inhabitable. Est-ce que l'Europe doit déjà aujourd'hui, en 2024-2025, penser à la suite en termes de flux migratoires ?
Alors déjà, il faut répondre au présent avant de penser à la suite. C'est-à-dire que ce pacte asile-immigration, il vise à répondre aux difficultés qu'on a de voir les frontières extérieures de l'Union, de gens qui viennent, qui traversent, qui arrivent en Grèce, en Italie ou en Espagne, mais qui n'ont pas forcément envie d'y rester, qui ont envie d'aller en France ou en Allemagne. Et du coup, il faut penser en européen nos frontières. Et quand on pense nos frontières, c'est en effet la vision qu'on a à la fois de l'accueil, mais aussi de nos sociétés à nous. Ça ne vous aura pas échappé que la démographie du continent européen est aujourd'hui en berne.
Et que le continent européen vieillit, c'est un petit peu le syndrome japonais.
Tout à fait. Et les Japonais ont fait un choix très fort de ne pas utiliser l'immigration et de rester entre eux et donc d'avoir un traitement des personnes âgées très particulier. Les personnes âgées travaillent très tard au Japon. C'est pas le cas en Europe, où nous avons des systèmes sociaux très généreux. Mais qui dit système sociaux généreux dit création de valeur. Et ça, aujourd'hui, il faut y penser et l'immigration a un rôle à jouer. Je ne dis pas qu'il faut ouvrir les vannes, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder, mais cette immigration mérite d'être pensée, réfléchie, et en tout cas qu'en effet, ce ne soit pas juste le self-service comme ça a pu l'être à un certain moment. Mais avec ce pacte asile-immigration, on va pouvoir mieux répartir les migrants, et surtout, mieux protéger nos frontières.
Alors, il y a des craintes, on entend des partis, on pense à Reconquête, qui parle de grand remplacement, de choc civilisationnel. Il y a effectivement parfois des problèmes, on l'imagine, pour des migrants qui viennent de pays qui n'ont pas les us et coutumes. Est-ce qu'il faut, là aussi, aider ceux qui viennent d'ailleurs avec d'autres cultures, d'autres coutumes, d'autres religions, à mieux s'intégrer dans l'Europe ou dans les républiques qui composent l'Europe ?
Alors, vous savez, l'immigration, c'est pas nouveau en France. Et quand on relit ce que pensaient certains Français de l'immigration polonaise ou italienne en France au début du XXe siècle, je peux vous dire qu'on avait l'impression que c'était d'autres civilisations qui venaient chez nous. Et quand les Français parlaient de ces Italiens ou de ces Polonais, c'était, vous imaginez pas, ils ont fait du feu dans l'appartement, ils ont tué la poule, c'est n'importe quoi. Bref, aujourd'hui, il y a en effet des petites frictions, mais qui sont culturelles. Je ne sais pas si ces frictions, nous en parlerons toujours dans 15 ans. Dans tous les cas, il est vrai. Moi, c'est la campagne des européennes aujourd'hui. Je suis sur les marchés tous les week-ends, toutes les semaines. Les gens m'en parlent. Donc oui, votre question, c'est une inquiétude tout à fait, qui est partagée de cette immigration, de cette intégration qui ne se ferait pas. Moi, alors évidemment qu'il y a plein d'aspects qui nous disent « Ah mais oui, mais ça va pas dans le bon sens, on voit certaines cultures qui changent », mais forcément, la société incorpore cette immigration. Mais je veux dire, aujourd'hui, qu'il y ait des pizzerias partout en France, ça choque personne. Mais si demain, il y a des kebabs ou des restaurants à couscous, je ne sais pas si ça change fondamentalement le fait d'être français. Et il y en a beaucoup.
Il y en a déjà, ils sont très bons.
Mais oui, mais du coup, je ne sais pas si fondamentalement le fait d'être français est complètement changé. Et peut-être qu'en effet, il y a plus de mosquées qu'il y en a eu avant. Est-ce que pour autant, il faut se dire... Ouh là là, la France est en train de disparaître. C'est le grand remplacement. Je ne crois pas. Je crois absolument pas.
Le combat, finalement, c'est sur l'intégrisme radical, mm-hmm. finalement, l'intégrisme religieux radical, d'où qu'il vienne du reste.
Alors, oui. Maintenant, comme je vous le disais, je suis sur les marchés. Je le dis aussi sur cette radio. Mais quand on entend les gens, ça va plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits. Mm-hmm. Et je le regrette. Mais beaucoup, et peut-être des auditeurs de cette radio, se disent que l'islam n'a pas sa place dans la République. Mmh. Et c'est des discours qu'on entend beaucoup trop souvent. C'est des discours caricaturaux, mais qui sont partagés par des gens qui sont parfois très intelligents, qui ont beaucoup réfléchi à la chose, et qui, moi, à titre personnel, je ne comprends pas cette façon de réfléchir. Et donc, probablement qu'il y a des efforts de pédagogie à mener. Il est vrai qu'il y a des éléments aujourd'hui qui démontrent que oui, il y a eu des problèmes avec un intégrisme islamique. Mmh. Est-ce que, du coup, ça doit faire passer outre la grande majorité des gens dans ce pays qui sont musulmans, soit de culture, et donc du coup, qui, comme on peut être chrétien de culture, soit qui sont pratiquants, mais pratiquants pacifiques, mmh. et qui ont donc le droit, et c'est reconnu par la République, de pratiquer n'importe quelle religion, celle-là comme bien d'autres. Donc, je pense qu'il y a un point de fixation identitaire sur cette religion en particulier, et ça pourrit vraiment notre vivre ensemble. Il y a des efforts à faire de chaque côté. Il y a à lutter, nous tous, collectivement, musulmans et non-musulmans, contre l'intégrisme et l'intégrisme religieux islamique. C'est évident. Mmh. Il y a des efforts qui sont faits, qui sont très forts par le gouvernement. J'entends que l'extrême droite compte faire bien plus. Alors moi, je leur dis bonne chance, parce que franchement, avec deux lois sur la sécurité, l'immigration, une loi tous les deux ans, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont apporter de plus là-dessus.
Est-ce que les médias, on va balayer un peu devant notre porte, est-ce que les médias ont là aussi un rôle important à faire, et dans la pédagogie, et peut-être dans la désescalade, si j'ose employer le terme?
Alors, mais nous avons tous un rôle à jouer. Tous, chacun des citoyens, là-dessus, a un rôle à jouer sur cet aspect-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on parle des musulmans comme d'un groupe un peu inconnu, difforme, mais dangereux, mais rapprochez-vous de ces personnes-là. Allez visiter des mosquées, rencontrer des musulmans, allez voir ce qu'ils disent. Et je vous jure, ce ne sont pas des gens qui sont... Ce sont des Français comme vous et moi. Ils vont dans les mêmes supermarchés que vous. Ils achètent globalement la même chose que vous. Ils ont les mêmes attentes pour leurs enfants. Et ils aiment la France tout autant que vous. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier du tout. Et certes, les médias ont un rôle à jouer, mais les politiques aussi. Et moi, je balaye devant ma porte aussi là-dessus. Mais chaque citoyen a sa responsabilité de porter ça. Et lorsqu'on entend des dérapages, de dire, ouvre un peu les yeux. C'est facile, en fait, de faire porter, comment dire, d'aller stigmatiser l'autre. Surtout quand l'ambiance générale est plutôt à se dire, il y a un problème avec ces gens-là.
Mmh. Il y a aussi un climat assez délétère dans cette campagne. Il nous reste quelques minutes. J'aurais voulu vous entendre là-dessus. Climat délétère. On voit ce qui se passe aussi dans nos universités, dans nos facs, qui deviennent parfois des tribunes politiques. Hein, on pourrait le dire comme ça. Jean-Luc Mélenchon cristallise aussi beaucoup d'attention pour prendre un terme mesuré. Est-ce que ce climat délétère, en fait, occulte un petit peu la chose européenne? On reste un peu dans le franco-français et on est sur autre chose.
Bah, écoutez, comme chaque campagne européenne, hein, là j'ai vu hier un sondage sur l'élection présidentielle de 2027, j'ai envie de dire où en sommes, enfin qu'est-ce que c'est que ce débat sur les européennes où d'un côté on ne parle que de la guerre à Gaza, ou de l'autre on ne parle que de la présidentielle de 2027. Et avec un candidat du Front National qui dit « Ah bah si je gagne, dissolution de l'Assemblée Nationale ». Attendez, vous faites quelle élection là, monsieur Bardella ?
Vous avez devancé ma question, j'allais vous demander ce qu'il faut dissoudre.
Ah bah oui, mais bien sûr, mais évidemment, sur une élection européenne, et pourquoi pas pour les municipales aussi. Enfin, je veux dire, chaque élection, ses enjeux, et ne mélangeons pas tout. Enfin, je veux dire, si les gens ont envie de voter pour cette élection sur des enjeux nationaux, très bien pour eux, mais quel dommage par rapport à l'ensemble des enjeux qu'il y a sur l'Europe. L'Europe de la défense, on l'a évoqué tout à l'heure. L'Europe sociale, l'Europe à construire ensemble sur l'écologie. Et quand on voit tout ça, et que derrière, on se retrouve à discuter de « est-ce que Marine Le Pen est présidente ?» Enfin, désolé, mais ça va. Oui, c'est très décevant. En tout cas, pour moi, qui suis un fervent européen, c'est très, très décevant. Maintenant, voilà, on a des politiques qui préfèrent surfer sur d'autres choses. En effet, des sujets parfois très clivants, qui n'ont absolument rien à voir avec l'Europe. C'est irresponsable, voilà, et je le regrette.
Autre inquiétude, il nous reste une petite poignée de secondes, c'est l'abstention. Aujourd'hui, on voit malheureusement que les élections européennes peinent à réunir autour de l'urne. On estime à 45% de taux de participation. Là encore, hein, c'est une estimation, donc à prendre avec grande prudence. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que finalement les Françaises, les Français, les Bretons s'intéressent à ces élections ?
Mais je crois qu'Emmanuel Macron a dit « l'Europe est mortelle » dans son discours de la Sorbonne.
Oui, c'était très fort.
Et en fait, la démocratie est mortelle lorsque nous ne faisons pas, lorsque nous ne participons pas. Et je regrette que les citoyens se désengagent des urnes. Vous parlez des élections européennes, mais ce n'est pas que les élections européennes,
oui, évidemment. Hein, c'est,
et donc,
c'est tout
pour votre
scrutin.
Question, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Mais que chacun prenne ses responsabilités et arrêter de mettre la responsabilité sur les médias et les politiques qui disent « ah ben, bah, ils sont pas assez intéressants ». Mais la politique, c'est pour tout le monde. Enfin, c'est pas que pour ceux qui s'y engagent. C'est pas un service public de la politique que pour vous. C'est vous, les citoyens, de vous investir.
On voit les jeunes, et ce sera vraiment ma toute dernière question, on voit les jeunes qui reviennent un petit peu à la politique, alors peut-être parfois par le biais d'engagement, on pense au climat, voilà. Est-ce que c'est une bonne chose que les jeunes soient plutôt vers une démarche politique et vers une démarche européenne aussi ? Ils sont très pro-européens. Hein.
Mais écoutez, malheureusement, j'aimerais que vous ayez raison, mais quand je vois que le Rassemblement National rassemble autant de jeunes, je m'inquiète. Donc je ne sais pas, mais bien sûr, je me félicite que les jeunes s'investissent en politique. C'est une excellente chose.
Guillaume Onfret était avec nous, président de Renaissance 56, 56 pour le département du Morbihan, d'où vous êtes venu ce matin, malgré les vicissitudes de la route et de la circulation. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce
matin. Merci à vous.
Belle journée.
Belle journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.